Comment, en lisant l'écriture, nous découvrons comme une espèce de philosophie révélée sur l'homme. Le philosophe a le droit d'être intelligent à travers de multiples manières. Donc j'ai le droit de dire, il y a un document qui m'intéresse particulièrement, qui m'intéresse beaucoup, c'est la Bible. Alors je vais essayer à travers la Bible, c'est un document quand même respectable au plan philosophique. J'ai des amis qui sont purement philosophes, qui ne croient pas et qui aiment la Bible, et qui considèrent que c'est le livre le plus vénérable qui soit. Ce que je crois, du reste. Je crois que c'est le livre le plus vénérable qui soit. C'est-à-dire le livre le plus intelligent qui soit. Donc, si c'est le livre le plus intelligent qui soit, je peux le lire de deux manières, la Bible. Je peux la lire en croyant, et je peux la lire avec un souci philosophique. C'est pas interdit, hein. Essayez de découvrir à travers la Bible ce qu'est l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme tel qu'il m'est révélé à travers la Bible? Alors, c'est de cette manière-là, vous voyez, que nous allons essayer de philosopher. Encore une fois, c'est une autre manière que lorsque j'essaie de philosopher d'un point de vue purement philosophique. Quand j'essaie de philosopher d'un point de vue purement philosophique, alors je pars de mes grandes expériences humaines. Je l'ai écrit dans un petit livre qui s'appelle « Lettre à un ami » où je montre comment on peut partir des grandes expériences humaines et philosopher à partir des grandes expériences humaines. C'est intéressant. Vous voyez, les deux démarches sont parallèles. Il faudrait toujours les mettre en parallèle. On ne peut pas le faire, hein. On n'a pas assez de temps, que voulez-vous, parce que on n'a pas suffisamment de temps pour se retrouver tout le temps. Alors, cette démarche que nous faisons, nous, aujourd'hui, et les autres jours, c'est essayer de partir à partir de ce que représente la Bible. J'ai le droit de le faire. Personne ne m'interdit de faire ça. C'est bien évident. Alors, nous ouvrons la Bible. On voit qu'on parle tout de suite de l'homme. Et qu'on parle de l'homme comme l'image de Dieu. Alors, philosophiquement, Dieu, je ne sais pas très bien c'est qui. Il faut bien comprendre, hein, puisque je n'ai pas vu Dieu. Et c'est vrai, au point de vue de mon expérience humaine, je n'ai même aucune expérience de Dieu. Je peux avoir une certaine expérience religieuse, mais je n'ai pas d'expérience de Dieu. Vous voyez, c'est la différence entre l'expérience de l'amour d'amitié, où par l'amour d'amitié, j'ai l'expérience d'un interlocuteur, d'une personne à qui je parle. J'ai l'expérience d'un être que je vois, que je touche, que je peux aimer. Mais au-delà de l'amour d'amitié dont j'ai l'expérience d'un être autre que moi. Tandis que dans le point de vue de l'expérience religieuse, j'ai l'expérience d'un certain, comme on dit, une certaine crainte intérieure, une certaine révérence, cette chose très extraordinaire que vous voyez dans la Bible à propos de Moïse, ce lieu est saint. Alors, on dira dans l'histoire de l'activité religieuse, et il ôte ses sandales, parce que ce lieu est saint, on n'a pas le droit de le profaner. Donc, il faut respecter. C'est le tremendum, hein, cette espèce de crainte révérentielle. On est en présence de quelque chose qui nous dépasse. Donc, je peux avoir cette expérience-là, mais je n'ai pas l'expérience immédiate de Dieu au plan purement philosophique, donc au plan purement humain. L'expérience immédiate de Dieu, je ne l'ai qu'avec la foi. Et celui qui a l'expérience immédiate de Dieu dit tout de suite qu'il a la foi. Tandis qu'au contraire, on est en présence d'une expérience religieuse, qui est une expérience humaine, qui nous fait découvrir la grandeur de l'homme, du reste, hein. Je découvre la grandeur de l'homme dans la mesure où j'ai cette expérience religieuse. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, ça fait partie hein, de la dimension de l'homme. Et je vois donc tout de suite que dans cette perspective dans laquelle je me mets, je vois tout de suite qu'on montre l'homme dans sa dimension religieuse. L'homme apparaît immédiatement comme un être qui est capable de reconnaître une dépendance amoureuse, aimante, à l'égard d'un être qu'il ne voit pas, mais qui est présent. L'homme vit en présence d'un inconnu, inconnu au point de vue de son intelligence, mais pas inconnu au point de vue de son cœur. C'est ça qui est très curieux. Et c'est peut-être ça la dimension religieuse. C'est qu'on a un sens d'une réalité qui nous dépasse, qui est proche de nous, affectivement, mais que nous ne pouvons pas saisir, que nous n'avons jamais vu, que nous n'avons même jamais entendu au sens absolu, bien que dans l'Écriture, très vite, on voit que Dieu parle à l'homme. Où es-tu ? Après le péché. Hein. Et l'homme a peur. Alors ça, ça pose un problème. Vous voyez que tout de suite, hein, au plan philosophique, quand j'ouvre la Bible, et quand j'essaie de regarder la Bible, je vois tout de suite qu'il y a quelques questions qui se posent avec une profondeur très particulière. Qu'est-ce que c'est que cet inconnu dont on parle ? Cet homme qui est comme en présence d'une réalité qu'il dépasse. Cet homme qui est lié à cette réalité qu'il dépasse, puisqu'on le définit l'image de Dieu. Voilà la première définition de l'homme telle qu'elle m'est donnée dans l'Écriture. Il est créé à l'image de Dieu. Alors, évidemment, en tant que philosophe, hein, n'oublions pas, je mets ma foi entre parenthèses, j'ai le droit de le faire, hein. Je mets ma foi entre parenthèses, et puis je dis, au point de vue purement intelligence, Dieu, c'est une donnée de tradition religieuse. Toutes les traditions religieuses parlent d'un Dieu, parlent d'un créateur, parlent d'une réalité qui me dépasse complètement. Et je ne sais pas ce qu'est ce Dieu dont on me parle. Alors, je me poserai la question en philosophe du XXe siècle, hein, vous comprenez bien, en philosophe du XXe siècle, je me pose tout de suite la question, est-ce que c'est un mythe, une invention de l'homme, ou est-ce que c'est une réalité ? Oui, je me situe après Feuerbach. Et Feuerbach considère que parler de Dieu, c'est au fond une projection de l'homme malheureux qui veut à tout prix découvrir quelque chose de plus grand que lui vers lequel il va tendre. D'où la création de ce mythe. Alors c'est très curieux, vous voyez qu'au niveau de cette perspective dans laquelle je me place, tout de suite le grand problème se pose. J'allais dire la question fondamentale au point de vue philosophique. Est-ce que ce Dieu dont on me parle au point de vue de l'Écriture, dans ce livre particulier qui est la Bible, est-ce que ce Dieu, je puis en parler humainement, philosophiquement ? Est-ce que mon intelligence est capable de l'atteindre ? Ou est-ce que ce Dieu, non ? Il est réservé à certains qui ont le privilège d'avoir vis-à-vis de lui un certain contact mystérieux que moi, je connais ou je ne connais pas, mais que je vois parmi moi, parmi les hommes qui sont autour de moi, des gens qui ne savent pas du tout. C'est vrai quand vous faites aujourd'hui l'enquête, hein, en demandant dans la rue, tout simplement, qu'est-ce que c'est que Dieu ? Vous voyez, les réponses sont plus diverses. Hein. Je vais faire un petit test là-dessus. Hein. Ce serait très intéressant. Sur 100 personnes que vous avez interrogées, sortant de la bouche du métro, qu'est-ce que c'est que Dieu pour vous? Ben, je crois que vous aurez des réponses.
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y aura? On a fait des tests hein, sur la France pour savoir combien de personnes, autant qu'on pouvait le dire, combien de personnes disaient, ah oui, Dieu, oui, c'est le Créateur. Oui, Dieu, c'est la réalité suprême. Mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Dans ma vie, oh, ça n'intervient pas du tout. Mais il doit exister. Et puis un petit nombre de gens qui disent, ah non, 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 ça c'est une invention des hommes. Il faut déjà des gens très cultivés pour dire que c'est une invention des hommes. Hein. Il faut des gens déjà très cultivés, parce que les gens, la plupart du temps, quand ils ne sont pas très cultivés, disent « Ah oui, Dieu, oui, oui, c'est une réalité qui me dépasse, qui est plus grande que moi, et que toutes les traditions religieuses acceptent, je ne sais pas c'est qui, mais il vaut mieux se mettre bien avec lui que mal. » On voit très bien la crainte qu'il y a. Un être qui domine. Et alors, un être qui domine, il vaut mieux se mettre bien avec lui que mal. Alors, à ce moment-là, commence déjà, vous savez, la crainte de Dieu, comme dit l'Écriture, et le commencement de la sagesse. Et quand il n'y a plus de crainte du tout, quelquefois, il n'y a plus de sagesse du tout. Et c'est vrai que c'est la première chose qui est révélée, c'est que tout de suite, on nous montre ça. Alors, philosophiquement, je pose un point d'interrogation. C'est du reste très curieux. Ce serait très intéressant de voir à travers l'Écriture tous les points d'interrogation qu'on se pose. Mais c'est le premier point d'interrogation qu'on se pose. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit créer à l'image de Dieu? Créer à la ressemblance de Dieu? Puisque Dieu, je ne le connais pas. Or, une image se connaît en fonction du modèle. Alors, comment connaître l'homme si je ne connais pas le modèle? Si Dieu, ça m'échappe complètement. Et c'est créer à l'image de Dieu. Ah, très bien. Premier point d'interrogation, je crois que c'est important de se poser ça. Deuxièmement, on me décrit ce qu'est l'homme. On me montre tout de suite dans l'homme le lien avec la femme. C'est très curieux ça. Les deux récits de la création montrent que la femme est à la fois regardée par Dieu, dans le même regard que l'homme. Il les a créés immédiatement, hommes et femmes. Et le second récit, il ne les a pas créés immédiatement. Il a d'abord créé l'homme. Et puis Dieu a eu l'air d'oublier la femme. Je ne sais pas pendant combien de temps il a laissé l'homme seul, mais il est sûr qu'il a laissé l'homme seul pendant un certain temps. Il fallait sans doute que l'homme fasse l'expérience de son isolement, je ne dis pas de sa solitude, mais de son isolement, que seul, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelqu'un. Dieu a beau essayer de remplir le plus qu'il peut cette expérience d'isolement en créant des quantités de choses merveilleuses, hein, des choses étonnantes, des petits poissons rouges et des petits poissons verts et des petits poissons de toutes les couleurs possibles. Enfin, Dieu, l'homme est seul. Et Dieu est obligé de faire cette réflexion. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est-à-dire une réflexion sur l'homme. C'est le premier jugement de Dieu sur l'homme. C'est très, très curieux, ça. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et alors, nous voyons, par le fait même, que Dieu va plonger l'homme dans un grand silence, dans une torpeur, et à partir de là, il crée la femme. Je vois donc qu'il y a un lien, vous voyez, c'est très curieux, quand je lis le début de la Genèse, c'est beaucoup plus toute une série de points d'interrogation. Quel est le lien entre l'homme et la femme? Je vois qu'il y a un double regard de Dieu sur l'homme et la femme. À la fois l'unité et en même temps la diversité. L'homme a été créé seul et la femme a été créée ensuite comme complément. Et quand la femme a été donnée à l'homme, l'homme a exulté de joie. Les premières fiançailles, hein, c'est quand même quelque chose, il ne faut pas les oublier. Les premières fiançailles qui sont extraordinaires. Chair de ma chair, os de mes os. C'est le premier Magnificat. Hein. Et l'homme est dans la joie. Il exulte de joie devant ce don que Dieu fait. Alors, chair de ma chair, os de mes os. Et on ne dit pas plus. On ne dit rien du tout. Vous êtes très sobre. Hein. Dieu ne raconte pas des petites histoires pour savoir comment l'homme et la femme vivaient ensemble. Rien du tout. Troisième moment. Je regarde successivement. Intervention d'un troisième personnage. Ils sont deux, puis un troisième qui apparaît. Et troisième apparaît tout de suite. Et ce troisième personnage, sous une forme symbolique. C'est curieux. Vous voyez que c'est quand même très curieux comme vision philosophique de l'homme. Hein. J'essaie de comprendre. Dans une vision philosophique de l'homme, je vois que tout de suite, l'homme est en référence avec Dieu, l'homme est en référence avec la femme, la femme est en référence avec le serpent. Il y avait tout de suite quatre. Oui, comme, c'est différent hein, de notre vision à nous, c'est très dépaysant au point de vue philosophique, mais c'est très intéressant de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? L'homme face à Dieu, image de Dieu, image du Créateur. Donc il y a en lui quelque chose de particulier. Il réfléchit au plus intime de lui-même et sur son propre visage. Il réfléchit la grandeur de son Créateur. Il est le miroir de son Créateur puisqu'il est l'image. L'image de Dieu se reflète sur lui. Il est donc enveloppé de divin. L'homme a quelque chose, une grandeur inouïe, invraisemblable, étonnante. Et puis Dieu lui donne une compagne. Et Dieu fait ça par amour pour lui, pour qu'il ne soit pas seul, pour qu'il puisse découvrir une certaine joie, pour qu'il puisse avoir un certain épanouissement. S'il est seul, il ne s'épanouit pas. Il a besoin de la femme. Et puis, dès qu'on voit ça, immédiatement, quatrième personnage, dont je n'ai pas l'expérience immédiate. Hein, vous n'avez pas encore compris exactement ce que c'était que le serpent qui est là. Cet animal rusé, le plus rusé de tous les animaux. Et cet animal rusé, il a le toupet d'interroger la femme. Et on voit que la femme est stupéfaite par cette interrogation. La tentation commence par une interrogation. Comme c'est intéressant, ça. La tentation commence par une interrogation. Sans doute qu'Adam n'avait pas beaucoup interrogé Ève. Quand nous retrouverons Ève dans le ciel, nous lui demanderons si Adam l'avait beaucoup interrogée. Ou si Adam était très très aimant à l'égard d'Ève. Os de mes os, chair de ma chair, c'est merveilleux, mais il a l'air de tout connaître, hein, Adam. Et donc il n'interroge pas beaucoup Ève. Quelque chose de nouveau, le démon introduit dans l'intelligence et le cœur de la femme, quelque chose de nouveau. Il l'interroge. Vous voyez, c'est très curieux que toutes les philosophies contemporaines insistent beaucoup sur l'interrogation. Et quand je regarde la Bible, je vois que ça a joué un rôle très important. Qu'est-ce que c'est que l'interrogation ? L'interrogation de ce quatrième personnage. Dieu n'interroge pas Adam et Ève, du moins pas tout de suite. Dieu ne les interroge pas tout de suite. Il les a faits, il leur a tout donné. Le premier qui interroge, c'est le serpent. Et c'est pour ça que le cardinal Journet aimait dire le premier dialogue qui est dans l'Écriture. C'est très bien de parler toujours du dialogue, mais n'oubliez pas que le premier dialogue qui est dans l'Écriture, c'est le dialogue entre le serpent et la femme. Hein. Et donc tous les dialogues ne sont pas toujours bons. Attention, il faut faire attention à qui on parle et à qui on répond. Quand quelqu'un vous interroge, faites attention. Est-ce que n'y a pas le serpent derrière, et qui s'intéresse à vous, et qui veut, par le fait même, vous orienter vers quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que veut Dieu. Le serpent interroge. Qu'est-ce qu'il veut, le serpent ? Arracher du cœur d'Ève un secret. C'est un arracheur de secrets, le serpent. Il veut arracher du cœur d'Ève un secret. Un secret, normalement, on n'a pas le droit de le dire à n'importe qui. Un secret, on a le droit de le dire qu'à des amis. Et des amis très sûrs. Normalement, on ne communique pas un secret à quelqu'un d'inconnu. Communiquer un secret à quelqu'un d'inconnu, vous savez bien ce que c'est. C'est une trahison. C'est curieux de trouver, dès le point de départ, la trahison. Il y en a un autre qui a trahi, Judas. Il a trahi. Et le premier qui tente pour que Ève trahisse, Ève a trahi. Elle a trahi par rapport à cette petite communauté qui, selon l'Écriture, j'ai le droit d'interpréter l'Écriture par l'Écriture, au point de vue philosophique, puisque nous savons que l'Écriture représente un livre, un. Et donc j'ai parfaitement le droit d'interpréter l'Écriture par l'Écriture. Or, vous savez bien, cette parole mystérieuse de Saint Jean, dans la première épique de Saint Jean, à propos du précepte de charité, à propos de l'amour mutuel que nous devons les uns par rapport aux autres, Saint Jean dit, c'est le nouveau commandement et c'est le plus ancien des commandements. C'est très curieux, ça. Ça prouve que dans cette première communauté, avant le péché, il y avait un commandement d'amour, d'amitié. Os de mes os, chair de ma chair, et Dieu voulait qu'entre Adam et Ève, il y ait une véritable amitié. Une véritable charité fraternelle, un amour personnel entre les deux. Dans tout amour d'amitié, entre amis, il y a des secrets. Et comme cet amour d'amitié était quelque chose de divin, cet amour d'amitié était scellé par Dieu. C'est la différence entre l'amitié purement humaine et l'amitié divine. La charité fraternelle, le mystère de la charité fraternelle est un mystère divin. Et donc, il est scellé par Dieu. C'est Dieu qui nous communique ce secret. Et c'est Dieu qui lie notre cœur au cœur de, celui qui est proche de nous, qui est tout proche de nous. C'est Dieu qui fait cela. Alors ici, je ne vois pas, je ne veux pas aller plus loin, je dis simplement qu'il y avait entre Adam et Ève, sûrement, ça m'est dit, un amour d'amitié très particulier, très unique. Puis si je vais un peu plus loin, j'écoute ce que dit le serpent. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit cette chose très curieuse. Dieu ne vous permet pas de manger des fruits de l'arbre de vie. Dieu ne vous permet pas de manger des fruits de l'arbre, des arbres qu'il a mis proche de vous. Donc Dieu vous met dans une situation d'esclave. C'est ça que ça veut dire. On interdit de prendre des fruits qui sont là tout proches. Supplice de Tantale, ça. Il y a des fruits, on vous met dans un jardin merveilleux, avec des fleurs, des tas de choses. Ah, vous ne mangerez pas du fruit de ces arbres. Vous voyez, la tentation porte sur la condition dans laquelle Dieu met Ève et Adam. Pour faire naître dans le cœur d'Ève une espèce d'amertume vis-à-vis de Dieu. Nous dirions aujourd'hui,
faire naître dans le cœur d'Ève une revendication à l'égard de Dieu. La situation dans laquelle Dieu vous met est une situation intolérable. Vous n'avez pas le droit d'accepter ça. Vous ne pouvez pas accepter ça. Dieu vous met dans un état d'esclavage. Je crois que tout ça est impliqué dedans, dans cette interrogation du serpent à l'égard d'Ève. C'est quand même intéressant de voir que la première interrogation, vous voyez, essayer d'éveiller dans le cœur d'Ève, donc cette première interrogation veut éveiller dans le cœur d'Ève quelque chose auquel elle n'avait pas pensé. Elle était trop naïve. Elle obéissait. Et elle aimait Adam. Situation première de la femme. Aimer et obéir, hein, c'est intolérable. Ça ne va pas. Elle n'a pas à obéir. Et elle était dans l'obéissance et dans l'amour. C'était sa première situation. Et il semble bien que Adam ne l'interrogeait pas beaucoup, n'éveillait pas beaucoup sa curiosité. Ça n'est pas dit, ça, hein. Mais étant donné la facilité avec laquelle Ève a répondu, elle a répondu tout de suite, immédiatement. Ça prouve qu'elle était stupéfaite. Vous savez, la première fois que vous découvrez quelque chose, hein, vous vous laissez prendre au piège. Si Adam l'avait interrogé beaucoup, je crois qu'Ève aurait été habituée à l'interrogation. Si Adam l'avait dit, hein, sois prudente, attention, tu es si belle, fais attention, tu es merveilleuse, hein, attention. Et non, elle se laisse prendre. La naïveté d'Ève, c'est curieux la naïveté d'Ève. Et saint Paul nous dit, séducta, elle a été séduite. Donc c'est bien une naïveté de se laisser prendre par cette interrogation qui fait que devant cette interrogation, à la place de tourner le dos à celui qui l'interroge, elle répond. Elle répond pour rectifier, elle veut donner une leçon. Mais pas du tout, Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu nous a permis de manger des fruits de l'arbre, mais d'un arbre. Ah ça, il nous l'interdit. C'est vrai. Donc, elle livre le secret. Et elle livre le secret au serpent qui l'interroge. Et le démon se sert immédiatement de ce secret pour donner une herméneutique, comme on dit aujourd'hui, une interprétation de la parole de Dieu. C'est très intéressant, ça. Là, je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important pour nous. Quand on saisit ça, quand on essaie de comprendre, au point de vue philosophique, c'est quand même un grand tournant. Même si on dit très peu de choses avant, on voit qu'il y a un très grand tournant qui s'accomplit à ce moment-là. On voit deux manières de recevoir la parole de Dieu. La manière d'Ève et d'Adam, tels qu'ils vivaient ensemble, heureux. Et puis la manière dont le serpent reçoit la parole de Dieu. Et le serpent donne une interprétation nouvelle que Ève n'avait pas encore entendue. Mais non, vous avez très mal compris, c'est pas ça du tout. Quand Dieu vous défend, c'est pas pour votre bien. C'est tout simplement parce que Dieu a peur de vous. Alors voyez, une nouvelle interprétation de Dieu. Et quelle est cette interprétation de Dieu ? C'est de considérer que Dieu est un rival. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dieu est un rival. Dieu a peur d'Adam et Ève. Comme si Dieu pouvait avoir peur d'Adam et Ève, alors qu'il est le Créateur. Si vous mangez de l'arbre de vie, mais vous serez comme des dieux, et Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Adam et Ève savent bien, dans leur amour pour Dieu,
dans leur obéissance qu'ils sont des chéris de Dieu. Ils le savent, qu'ils sont aimés de Dieu. Ils le savent. Ils savent bien que Dieu les appelle à être semblables à lui, donc d'être comme des dieux. Mais par l'obéissance et l'acceptation d'une foi obscure, sans comprendre. Vous serez comme des dieux en acceptant l'épreuve de la foi et montrant que l'épreuve de la foi, vous l'acceptez pleinement en obéissant. Voilà ce qui nous est montré, hein, c'est si on essaie de comprendre. Du reste, toute la grande tradition des pères de l'Église l'a compris comme ça. J'ai le droit de regarder ça, hein, au point de vue philosophique, essayer de comprendre ce que représente cette interrogation. Et de voir comment cette interrogation va donner une interprétation toute nouvelle de la parole de Dieu. C'est très très curieux ça, et c'est intéressant pour comprendre ce que c'est que le démon. C'est quand même très intéressant de comprendre ce personnage. Évidemment, le philosophe ne sait pas du tout ce que c'est que le démon. Mais il a le droit de se dire, il y a un symbole là, un symbole d'une espèce d'intelligence mauvaise qui veut détourner. Le premier détournement. Pour que, de fait, à la place d'obéir, on se mette dans un état de rivalité et d'opposition vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas du tout un père, Dieu en réalité est un tyran et un rival. Et qu'il a peur. Il a peur de vous, il a peur que vous alliez trop loin et que vous deveniez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire que vous soyez vous-même la mesure de l'orientation de votre vie. Connaissant le bien et le mal, c'est comme si on devenait soi-même capable de s'orienter vers le bien et vers le mal. Donc, comme si on avait l'autonomie plénière. Vous savez bien, dans la philosophie, il y a eu certains philosophes qui ont dit « L'homme est la mesure de toute chose. » Eh bien, si l'homme est la mesure de toute chose, l'homme devient donc celui qui est comme Dieu. Dieu est la mesure de toute chose, hein, connaissant le bien et le mal. Si je suis la mesure de toute chose, je considère que le bien et le mal, c'est en fonction de moi. Ce qui me convient est bon, ce qui ne me convient pas est mauvais. Et c'est moi-même qui fais le partage entre le bien et le mal. Et psychologiquement parlant, hein, c'est comme ça qu'on fait. Ce qui vous convient, mais très bien, mais allez-y. C'est dans votre tempérament. Mais c'est très très bien. Faites tout ce qui est selon votre inclination normale. Allez-y, surtout pas de défense. Non, allez-y dans le sens où vous devez comprendre. Vous êtes vous-même la norme du bien et du mal. Si vous êtes la norme du bien et du mal, mais n'hésitez pas. C'est vous qui tranchez le bien et le mal. Mais c'est terrible cette tentation première. Hein, elle dit des quantités de choses. Le démon interroge, donc suscite une nouvelle curiosité dans Ève. Il donne une interprétation de la parole de Dieu pour faire que Ève ne soit plus dans le sens de l'obéissance et ne comprenne plus que la parole de Dieu est une parole d'un père. Non, ce n'est pas une parole d'un père, c'est une parole d'un rival. Il a peur que vous deveniez comme Dieu, comme lui. Alors que si vous prenez du fruit de cet arbre, de l'arbre de vie, bien vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ève se laisse prendre.
nous le savons. Et elle mange le fruit. Et immédiatement, dès qu'elle mange le fruit, elle veut qu'Adam fasse la même chose. Elle devient la tentatrice. Ce n'est plus l'amie, c'est celle qui va tenter Adam. C'est très curieux que le démon, symbolisé par le serpent, n'est pas osé parler directement à Adam. Il se sert d'une médiatrice, mais dans le sens anti-médiatrice de grâce. C'est la médiatrice à l'égard de la séduction, à l'égard du détournement. Il se sert d'Ève pour agir directement sur Adam, comme s'il ne pouvait pas agir sur Adam. Là aussi, les pères de l'Église indiquent quelque chose d'intéressant. C'est que le démon a toujours peur de l'autorité. Et Adam représente l'autorité. Alors il a peur de l'autorité. Alors il attaque celle qui est plus fragile. Je peux découvrir cela, qu'il y a une fragilité donc qui m'est révélée, une fragilité très particulière chez la femme. Et cette fragilité, le serpent s'en sert. Il l'a découverte et il s'en sert pour la secouer et faire qu'elle ne sache plus où s'orienter. Et alors elle se met à la remorque du serpent. Elle se laisse prendre. Vous voyez comment le venin va pénétrer, le venin spirituel, va pénétrer dans le cœur de la femme. C'est quand même très étonnant, ça. La première brisure qui m'apparaît telle dans l'Écriture, la première brisure, c'est justement à l'égard d'une exaltation de l'intelligence. Connaître le bien et le mal. Dominer la distinction du bien et du mal, devenir la mesure du bien et du mal. Le venin pénètre par l'exaltation de l'intelligence. Et immédiatement, elle se détourne de Dieu. Il y a un déséquilibre qui se fait à partir de ce moment. La parole de Dieu n'est plus reçue avec amour, puisque c'est elle qu'elle regarde en premier lieu. Se regarder comme mesure du bien et du mal, c'est se regarder en premier lieu. À la place d'être dépendant d'un être premier, en recevant sa parole, en recevant son enseignement, c'est au contraire accepter, vouloir que c'est en réfléchissant sur nous-mêmes, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc c'est un repliement sur sa propre intelligence. Sa propre intelligence pratique, mais c'est un certain repliement qui fait qu'à partir de là, on devient mesure du bien et du mal. Et en devenant mesure du bien et du mal, alors on s'oriente soi-même ou vers le bien ou vers le mal. Et il faut souligner que dès qu'elle fait cela, elle devient complice. Elle veut détourner l'homme. Elle devient celle qui va de fait orienter l'homme dans le même sens. Alors ça me semble aussi très important comme vision sur la femme. Parce que l'Écriture nous donne une vision sur la femme qui est extraordinairement intéressante, sur l'homme aussi, mais peut-être encore plus sur la femme. On nous montre que la femme est médiatrice dans l'ordre de l'amour, et que si elle n'est pas médiatrice dans l'ordre de l'amour, elle devient médiatrice dans l'ordre du mal. C'est curieux. Elle passe d'un extrême à l'autre. Et c'est peut-être ce qui a de plus significatif. Il y a en elle comme une espèce de capacité très particulière pour le bien. Et si elle ne s'oriente pas vers le bien, immédiatement, elle devient complice du mal. À la place d'être complémentaire, elle devient séductrice. Complémentaire en comprenant bien ce que ça veut dire. Hein. Complémentaire, ça ne veut pas dire toute relative à l'homme. Non, non, complémentaire dans le sens biblique, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Complémentaire, ça veut dire l'achèvement. Elle est celle qui achève. Toute la création s'achève dans la femme. Et ça, c'est bien ce qui nous est montré, parce que Dieu s'est reposé après avoir créé la femme, pas après avoir créé l'homme. Ce qui montre bien que l'homme n'est pas le chef-d'œuvre. Tandis que c'est après avoir créé la femme que Dieu s'est reposé. Et donc, il y a là quelque chose de très particulier qui montre que la complémentarité, parce que la complémentarité, évidemment, ordinairement, les théologiens sont des hommes, hein, alors ils aiment mieux de montrer la complémentarité dans le sens, elle est toute relative à l'homme. Complémentaire, ça veut dire toute relative à l'homme. Attention, il y a un autre sens de complémentarité. Ça peut très bien se comprendre dans le sens que elle est celle qui achève. Elle est à la fois médiatrice et en même temps celle qui achève. Toute la création s'est achevée dans la création de la femme. Ça, dans la vision de Dieu. Médiatrice dans l'ordre de l'amour et complémentaire dans l'ordre de l'amour. Tout s'achève en elle. Et c'est pour ça que Dieu se repose après avoir créé la femme. Donc, ça nous montre bien comment elle est chef-d'œuvre de Dieu. Alors évidemment, sans exclure l'homme, c'est bien la femme et l'homme qui sont chefs-d'œuvre de Dieu, mais il y a quelque chose de particulier dans la femme, parce que c'est elle qui va jouer ce rôle de médiatrice et de complémentarité. C'est très curieux et c'est très beau de voir ça. Et le démon s'attaque à la femme parce qu'il sait qu'elle est justement la benjamine, la dernière, la plus fragile, et celle aussi qui porte d'une manière très particulière l'amour du Créateur. C'est en elle que le secret du Créateur va être mis. Et étant donné la curiosité du démon et la fureur du démon, il ne faut pas oublier ça. Alors là aussi, nous pouvons le dire à partir, si vous voulez, de l'Écriture. Hein. Regardez le prologue de Saint Jean. J'ai le droit de regarder le prologue de Saint Jean, ça fait partie de l'Écriture. Hein. Selon le prologue de Saint Jean, je vois que la création de l'homme et de la femme se sont faits dans la lutte. Et ça, c'est peut-être très important à saisir au point de vue philosophique. La création des anges, je ne sais pas très bien ce que c'est que les anges au point de vue philosophique, hein, mais on en parle, des envoyés de Dieu. Il y a des anges qui sont avant, faut bien qu'il y ait une création avant, puisqu'autrement, on ne comprendrait pas du tout le symbolisme du serpent. Et donc, je peux dire que la création des anges s'est faite dans la paix, mais la création de l'homme et de la femme se sont faits dans la lutte. Comprenez bien. Dieu communique à l'homme sa lumière. Et il est montré immédiatement que les ténèbres ont voulu l'étreindre. Et donc, on voit qu'immédiatement, les ténèbres Les ténèbres, nous savons ce que c'est. Hein. Les ténèbres, philosophiquement, on dirait les forces du mal. Au point de vue théologique, on dira le démon. Symboliquement, au point de vue philosophique, je peux dire que les ténèbres, c'est une force démoniaque. Ce n'est pas les ténèbres extérieures, c'est les ténèbres spirituelles, parce que les ténèbres extérieures ne peuvent pas être et étouffer la lumière de l'intelligence. Hein. Vous n'êtes pas moins intelligent quand c'est la nuit. Donc, on est même plus intelligent, parce qu'il y a un peu plus de recueillement, n'est-ce pas? Pendant la journée, il y a un peu trop d'agitation, pendant le soir, on est un peu plus recueilli, alors on peut avoir une intelligence plus éveillée. Les ténèbres physiques ne sont pas là du tout pour éteindre notre intelligence. Donc, les ténèbres dont il est parlé, ce sont des ténèbres intérieures. C'est des ténèbres spirituelles. C'est donc le péché. Et donc, la création de l'homme et de la femme se sont réalisés après le péché de l'ange. Et donc, quand le démon existait, et malgré la faute des anges, Dieu a continué son œuvre de créateur. Il a donc réalisé son œuvre de créateur dans la lutte. Une lutte non pas interne par rapport à lui-même, mais une lutte externe. Et ça, nous l'oublions trop. Parce que c'est quand même très très beau de voir ça. Parce que ça fait partie, si vous voulez, de cette magnanimité du Créateur. Vous voyez, nous, quand nous réalisons quelque chose, hein, si ça rate, on arrête tout de suite. On dit... Ou bien quand on fait une œuvre d'éducation... Si on voit que ceux qu'on essaie d'éduquer se retournent contre nous, on dit « j'ai compris hein », puis on arrête. Quand on fait une œuvre d'enseignement, c'est la même chose. Hein. Si c'est ça le résultat, c'est pas fameux, j'arrête. C'est très curieux de voir que Dieu agit tout à fait différemment. Il a créé des anges, il a révélé quelque chose aux anges, et cette révélation a été bien reçue ou mal reçue. Et c'est à partir de cette révélation qu'il y a eu une coupure parmi les anges. Les uns ont adhéré, les autres ont refusé. Ça, je le vois dans l'Écriture. Hein. Sans connaître ce qu'est le démon, je peux dire qu'il y a ça. Il y a eu une rupture qui s'est faite parmi les créatures angéliques, parmi les créatures spirituelles. Il y a eu une rupture, et cette rupture s'est faite parce que les uns ont reçu la parole de Dieu et que les autres ne les ont pas reçus. Ils n'ont pas voulu ce que Dieu voulait. Et il y a des chances, c'est que Dieu a révélé aux anges son désir de poursuivre son œuvre de créateur en réalisant un monde physique, un monde matériel, notre univers, pour pouvoir réaliser son chef-d'œuvre, lier l'esprit à la matière, réaliser son chef-d'œuvre. Et les anges mauvais, Lucifer, a refusé. Il n'a pas voulu avoir des frères, des sœurs qui étaient liés à la terre. Avoir comme frères et sœurs des peaux rouges. Adam, hein, c'est la terre rouge. Il n'a pas voulu ça. Mais du point de vue de la race qui commence, hein, le racisme commence chez les anges. Hein. Il n'a pas voulu avoir comme frères et sœurs ces petits derniers, quoi. Ces êtres liés à la matière. Des êtres qui soient bien, bien inférieurs à lui. Ce n'est pas agréable du tout, ça. Alors, ils ont refusé. Ils ont dit non. Ils ont considéré que de la part de Dieu, ce n'était pas digne de Dieu de réaliser un monde matériel. Un esprit ne crée pas la matière.
C'est pas digne de la part de Dieu, qui est esprit, de créer la matière. Ils ont refusé, ils ont rejeté ça. Et malgré ce refus des anges, Dieu a poursuivi son œuvre. Et c'est pour ça que la création de l'homme et de la femme se sont réalisées dans la lutte. Ce qui nous fait comprendre combien Dieu aimait l'homme et la femme. Réaliser une œuvre dans la lutte, ça nous montre combien on l'aime et combien on veut aller jusqu'au bout. Réaliser une œuvre dans la joie, c'est facile, ça se comprend, hein, mais réaliser une œuvre dans la lutte. Et Dieu a réalisé notre monde physique et a réalisé l'homme et la femme dans la lutte. Et la lutte continue, hein. C'est pas d'aujourd'hui la lutte. Elle est dès le point de départ de notre univers. Tout de suite, notre univers n'a jamais été uniquement dans la paix. Toujours été dans la lutte. C'est comme naturel à notre univers, la lutte. Parce qu'on a été créé dans la lutte. Et ceci pour nous faire comprendre combien Dieu, dans son amour pour l'homme et la femme, a voulu être magnanime. Et il a réalisé ça, l'homme et la femme, dans la lutte. Alors, on comprend la fureur des mauvais anges. Dieu n'a pas voulu tenir compte de leur opposition. Dieu n'a pas voulu tenir compte de leur mauvaise humeur, de leur refus. Dieu a été au-delà de leur refus, parce que c'est un Dieu d'amour. Alors que les démons, les mauvais anges, voulaient que Dieu s'arrête à la création des anges. Que l'esprit crée des esprits, c'est normal. Et qu'un esprit aussi distingué que Dieu réalise un monde physique, ça c'est inconcevable pour l'intelligence du démon. C'est inconcevable. Dans l'orgueil du démon, le chef-d'œuvre de Dieu ne peut être et doit être. Il doit être le chef-d'œuvre de Dieu, il doit être et ne peut être que la création des esprits. Ça ne peut pas être autre chose. Que le chef-d'œuvre de Dieu puisse être lié à la matière et que Dieu veuille réaliser un monde matériel et dedans et par lui réaliser son chef-d'œuvre, non, c'est impossible. Vous voyez, l'orgueil consiste à faire passer devant l'intelligence en refusant un primat de l'amour. Et on comprend très bien comment le venin du démon qui passe à travers l'intelligence et le cœur d'Ève, ce soit encore ce primat de l'intelligence par rapport à l'amour. C'est une exaltation d'elle-même et de sa propre intelligence, voulant devenir mesure de toute chose. Donc, au plan philosophique, nous assistons à cette première faute qui nous est montrée comme une grande brisure, un grand déséquilibre qui va exister dans le chef-d'œuvre même de Dieu. Le démon est arrivé à sa fin. Il voulait montrer que le chef-d'œuvre de Dieu ne pouvait pouvaient pas être l'homme et la femme. Et pour ça, il faut tout simplement que la femme s'oppose à Dieu, à la suite du démon, d'une façon tout à fait différente, mais que ce soit aussi une exaltation de l'intelligence. Qu'elle considère qu'elle doit être celle qui lutte contre Dieu. C'est le propre de l'orgueil. Dans l'orgueil, on lutte contre Dieu. Et on veut se poser comme rival de Dieu. Dieu n'est pas rival de l'homme, mais l'homme peut être rival de Dieu. Il peut se poser en rival de Dieu, parce qu'il veut que son intelligence passe avant l'amour. Il veut que l'intelligence domine tout, et qu'il devienne la mesure du bien et du mal. Qu'est-ce que nous voyons ensuite ? J'essaie de comprendre ces différents moments en voyant que ça me donne toute une intelligence très particulière de l'homme et de la femme. Je vois que la femme a une vulnérabilité plus grande. Elle était appelée à être l'achèvement de tout. Et c'est peut-être cela qui a irrité le plus ce quatrième personnage qui est le serpent. Qui au fond n'avait pas accepté, ne voulait pas que l'homme et la femme soient les chefs-d'œuvre de Dieu. Et donc si la femme est l'ultime chef-d'œuvre de Dieu, l'irritation du démon est particulièrement grande par rapport à la femme. Et ça je crois que c'est vrai. Il y a une espèce d'irritation plus grande du démon par rapport à la femme. Et ça nous le voyons tout de suite, hein, ça nous est montré. Et qu'il veut la détourner de son œuvre de médiatrice dans l'ordre de l'amour. Et qu'il veut tout de suite en faire une caricature d'être médiatrice dans l'ordre de la séduction et d'arriver à détourner l'homme. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est que nous voyons immédiatement que l'homme se replie sur lui. Alors c'est exprimé d'une façon symbolique, là encore, toujours, c'est normal du reste. C'est des traditions religieuses qui donnent un symbolisme très étonnant que l'homme s'aperçoit de sa nudité. Alors qu'avant, il ne s'en apercevait pas. Pourquoi ? Parce que son regard se portait vers Dieu. Son regard se portait sur celle que Dieu lui avait donnée dans l'amour. Dès que l'amour disparaît, c'est la curiosité qui prime. Il y a comme une nouvelle découverte qui se fait pour Adam et Ève. Une nouvelle découverte. Une découverte de leur unité et de leur diversité. Ils s'aperçoivent de leur nudité, donc de ce qu'ils sont dans leur regard humain. Et immédiatement, ils comprennent cette diversité et cette unité qui, là, était dépassée par l'amour. C'est très beau, ça aussi. C'est très beau de voir que dans l'amour, il n'y a pas de nudité. C'est quand l'amour n'est plus présent qu'il y a phénomène de nudité qui apparaît. Le Saint-Père a très fort souligné cet aspect-là, et il a raison, c'est quelque chose qui, au point de vue philosophique, est très extraordinaire, la première expérience de la nudité, qui nous est montrée là comme un phénomène qui a fait que l'homme et la femme ont eu comme peur l'un de l'autre. Ils étaient loin de Dieu.
Et lorsque, de fait, Dieu se met à les interroger, il se cache.
Alors là aussi, c'est très curieux et très intéressant de voir ce premier appel de Dieu. Il y avait eu la première réflexion de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ici, nous sommes en face d'une interrogation de Dieu. Dieu les interroge. Où es-tu ? Adam, où es-tu ? Dieu l'appelle. Et l'homme a peur. Alors, nous apercevons ici la première peur de l'homme à l'égard de son Créateur, à l'égard de son Dieu. Une peur, il se replie sur lui-même. Vous voyez les deux repliements, et je crois que ça c'est important au point de vue profond et au point de vue philosophique à voir, ce double repliement, le premier repliement sur sa nudité, comprendre ce qu'il est, et le second repliement à l'égard de son Créateur, il a peur. Il a peur, il se cache. Et Dieu est obligé de l'appeler, de l'interroger, pour que Adam fasse son premier examen de conscience. Le premier examen de conscience de l'homme. Hein. C'est Dieu qui l'oblige. Hein. On n'aime pas beaucoup de faire un examen de conscience après qu'on a péché. Et Dieu est là pour l'obliger de faire cet examen de conscience. Et nous voyons que Dieu interroge. Il interroge l'homme. L'homme dit, ah, c'est pas de ma faute, c'est la compagne que tu m'as donnée. Hein. C'est extraordinaire, ça, de voir la dignité de l'homme. Il ne porte pas la responsabilité de sa faute. Hein. La responsabilité, il est devenu, que voulez-vous, à cause de la faute, il s'est replié sur lui-même, et il est incapable de porter la responsabilité de son acte. Première conséquence de la faute, du moins seconde conséquence si vous voulez, première conséquence la peur et seconde conséquence de la faute, il rejette sur la femme sa faute. La compagne que tu m'as donnée, c'est elle. Voilà, tu m'as fait un beau cadeau. C'est elle qui m'a entraîné. S'il n'y avait pas été là, moi j'étais seul. Ben, je m'occupais des petits poissons. Ça allait, il n'y avait pas d'orgueil du tout. Mais là, il y a eu quelque chose, un phénomène très particulier. C'est elle, c'est de sa faute. Alors quand Dieu interroge la femme, « Ah, c'est la faute de l'autre !» Oui, c'est très curieux. La conséquence immédiate de la faute par l'orgueil, c'est qu'on devient incapable d'être responsable de ses actes. Alors là, il y a tout un aspect, je ne vais pas le voir, nous le verrons ça la fois prochaine. Vous me direz, je vois là. La naissance de la responsabilité et de la non-responsabilité. L'homme à l'égard de son Créateur, à l'égard de son Dieu, une peur, il se replie sur lui-même. Vous voyez les deux repliements, et je crois que ça c'est important au point de vue profond et au point de vue philosophique à voir, ce double repliement, le premier repliement sur sa nudité, comprendre ce qu'il est, et le second repliement à l'égard de son Créateur, il a peur.